Alors, je vous présente Mélissa Jane Gauthier. Mélissa est doctorante en lettres à l'Université du Québec à Chicoutimi, en co-tutelle avec l'Université Lille-Trois. Co-dirigée par Anne-Martine Parent de l'UQAC et Yves Baudel de Lille-Trois, elle prépare une thèse sur l'aveu de l'inavouable, les postures confessionnelles dans l'autofiction au féminin. Et aujourd'hui, elle nous présente une communication intitulée « Sujet parasité, se concevoir comme un corps composé des autres ».
Merci, Raphaël. D'emblée, pardonnez la merveilleuse voix que j'ai aujourd'hui. Petit virus cette semaine. Je vais tenter de pas avoir une quinte de toux qui va vous troubler et vous faire des cauchemars. Dans la suite de Julie Gagnon ce matin, je m'attarde à l'autofiction aujourd'hui parce que, oui, l'autofiction s'inscrit bien sûr dans un cadre qui n'existait pas avant. C'est donc on prône la trinité auteur, narrateur, personnage, mais en faisant à la fois un pacte romanesque. Donc, cela va sans dire que ça met en scène, selon moi, un personnage de fiction au même titre que dans un roman. Point. Il y avait vraiment un point à cette phrase-là. Je commence d'emblée en citant Mes mauvaises pensées, qui est le texte au centre de ma communication aujourd'hui. Donc, tout commence là, dans une confusion des lieux. Fin de la citation. De mère française et de père algérien, l'auteur-narratrice, à comprendre ici comme auteur-narratrice-personnage, donc l'auteur-narratrice de Mes mauvaises pensées est prise entre deux pays. N'appartenant ni à l'un ni à l'autre, déracinée, Nina erre entre Paris et Alger. Incapable de vivre dans le présent, obsédée par sa propre enfance et l'histoire de sa famille, elle vacille entre deux temps. La frontière entre passé et présent devient floue. Le passé continue de s'accrocher au présent, créant un chevauchement des temps jusqu'à ce que l'existence ne devienne qu'un trait. Condamnée à refaire ce trajet d'avant en arrière, Nina est non seulement porteuse de son histoire personnelle, mais également de celle de sa famille et de l'Algérie. C'est donc comme sujet buvard que se présente l'auteur-narratrice, à savoir comme faite d'une peau sensible qui prend tout. Et c'est ce statut de sujet buvard qui la condamne à être constamment traversée, peuplée, envahie, à n'être qu'un corps mémoriel qui prend, garde et retient, qu'une somme de fragments, de restes et de traces laissés par les autres sur sa peau. Voilà l'anthropologie qui est mise de l'avant dans Mes mauvaises pensées, celle d'un sujet parasité, incapable d'autodéfinition, construit par les autres, par leur influence et marqué par leur passage. C'est alors la tentative de construction d'un « je » qui paradoxalement ne s'appartient pas, un « je » pluriel qui ne sait être singulier. Cette conception de soi de l'auteur-narratrice qui se constate formée, constituée par les autres, a bien entendu un impact majeur sur son expérience mémorielle et sur son écriture. Voici donc ma communication qui s'intitule « Sujet parasité, se concevoir comme un corps composé des autres ». Les pratiques autobiographiques contemporaines remettent en question l'autobiographie telle qu'on l'a connue, par exemple, avec les confessions de Rousseau. Avec l'héritage du soupçon, il y a une perte de confiance en le langage et l'idée de vérité est en déchéance. Il est désormais impossible d'aspirer à la triple transparence à laquelle on croyait autrefois. La transparence à soi, puisqu'on ne peut se connaître parfaitement. La transparence de sa vie, parce que celle-ci ne nous est pas totalement accessible, nos souvenirs sont fragmentés, notre mémoire est lacunaire. Et finalement, la transparence du langage, car il s'agit là d'un système arbitraire, approximatif et subjectif, dont le seul emploi impose un travestissement de la réalité. Avec Rousseau, il y avait la certitude d'un « moi », et surtout la certitude que l'écriture de ce « moi » pouvait s'accomplir. Pardon. Selon Jean-Bertrand Pontalis, dans « Perdre de vue », ces certitudes ne sont plus les nôtres. Fin de la citation. L'être humain est clivé. Il y a de l'inconnu en lui, de l'inconscient, de l'irrationnel. Bref, tout être humain se découvre en quelque sorte étranger à lui-même. Ainsi, l'auteur-narrateur n'écrit plus une récapitulation de sa propre vie, mais cherche plutôt une forme d'expérience de soi, au sein de laquelle une quête de soi va être entreprise. Il est inévitable qu'avec le déplacement des enjeux relatifs à l'écriture autobiographique, ce soit également opéré un déplacement des questions lui étant sous-jacentes. Ces questions ne sont sans doute plus, et je cite à nouveau Pontalis, « Qui suis-je? Qu'ai-je fait? D'où je viens? » Mais plutôt, où suis-je? De quoi suis-je fait? À quoi suis-je asservi? Et surtout peut-être, qu'est-ce qui me fait parler? » Fin de la citation. Voilà une prémisse dont l'établissement était essentiel pour la lecture de Mes mauvaises pensées. Les deuxième et quatrième questions soulevées par Pontalis, soit « De quoi suis-je fait et qu'est-ce qui me fait parler? » sont particulièrement éclairantes dans l'appréhension de l'auteur-narratrice et serviront en quelque sorte de point d'accès à cette dernière. Le fait que Mes mauvaises pensées soient un texte auto-fictionnel n'est pas sans importance. En effet, la posture de l'auteur-narratrice est bien différente de celle des narrateurs qui nous guident d'ordinaire dans la découverte du personnage. Puisque même dans le cas où le narrateur et le personnage ont un jeu commun, le narrateur a généralement une posture de connaissance. Il sait. Quant à elle, l'auteur-narratrice de Mes mauvaises pensées se cherche. Elle se lance dans une entreprise de découverte de soi, et c'est à ce sujet qui n'est pas défini que le lecteur est confronté. Première partie, une quête de définition. Qui est Nina? Bien que cette question se trouve être d'apparence plutôt anodine, elle donne du fil à retordre à quiconque s'aventure dans un texte de Bouraoui. Il s'avère inutile en effet de tenter de décrire l'auteur-narratrice en lui donnant des qualificatifs précis, puisqu'elle se trouve constamment dans un interstice, dans un état d'entre-deux, qui se traduit par une identité difficile, voire impossible à cerner. Son identité est fragmentée, fracturée. La quasi-totalité des hypothèses réalistes, relève alors d'une description par la négative, soit parce que l'auteur-narratrice n'est pas. Ainsi, une conclusion s'impose d'emblée. Quelle que soit la voie choisie dans l'appréhension de l'auteur-narratrice, il importe de montrer son caractère pluriel et composite. C'est la raison pour laquelle la question « de quoi suis-je fait » est incontournable. Et à cette question, une seule réponse est possible. L'auteur-narratrice est faite des autres. Je cite Mes mauvaises pensées. Je ferme les yeux. Je forme un corps composé des autres. Il y a ce mot terrible que j'entends, étranger. Je ne sais pas si je l'entends dans les chansons. Je ne sais pas si je l'entends dans ma tête. Je ne sais pas s'il vient à cause de moi, de mes visions. Je ne sais pas si c'est à cause de mon corps, qui se sent nouveau dans sa chair. J'ai toujours été une étrangère, vous savez. Il est difficile pour moi de me définir. Mon corps transparent est traversé par le monde, par les gens que je fréquente. » Fin de la citation. C'est cette expérience humaine qui est présentée dans Mes mauvaises pensées, celle d'une étrangère. Nina est étrangère dans son identité, dans le pays qu'elle habite, dans ses relations amoureuses, dans sa famille, étrangère quoi qu'elle fasse et où qu'elle aille. C'est ce qui fait d'elle un corps transparent, traversé, un sujet divisé qui ne peut sortir de cet interstice dans lequel son identité fragmentée et contradictoire la condamne à rester. Cette idée de corps transparent peut de prime abord sembler paradoxale, puisqu'elle s'oppose en quelque sorte à celle d'un corps stigmatisé, marqué de traces. Toutefois, alliée à celle de corps flou, soit un corps ne sachant choisir son identité, elle ne fait au contraire qu'appuyer l'état d'indéfinition dans lequel se trouve l'auteur-narratrice. Et je cite à nouveau le texte. « Pour moi aussi, il a fallu choisir mon identité. Je ne divisais pas le monde en deux camps. Je croyais à la transparence des chairs, à la traversée des êtres par un autre. » Fin de la citation. Il s'agit dès lors de voir combien son corps et sa peau sont perméables, prédisposés à se laisser traverser, pénétrer. C'est en prenant en compte cette prédisposition qu'il est possible de saisir toute la portée de ce qui est présenté comme la peau buvard de la narratrice. Je cite « cette peau sensible qui prend tout, la peau buvard qui fera écrire, qui fera raconter ». Fin de la citation. D'une part, cette peau buvard apporte une réponse à la question « qu'est-ce qui me fait parler ?». C'est en effet cette peau qui fera écrire Nina, c'est cette obsession de tout fixer qui constituera sa langue puis son corps écrivain. D'autre part, cette façon de percevoir la peau, le corps, offre un certain accès à la conception de l'être humain, ou plutôt de l'expérience humaine avancée dans le texte, à l'anthropologie qui y est mise de l'avant. Nina est certes un sujet fortement incarné dans son corps, dans sa peau, se qualifiant elle-même comme une peau buvard, une chair fossile, un corps transparent, un corps témoin, le corps du monde, ou plus explicitement un corps composé des autres. Elle insiste elle-même sur la perméabilité de sa peau, sur sa traçabilité, puisque chacune des marques laissées permet de voir ce qui l'a constituée, construite. Pourtant, cette incarnation du sujet dans son corps n'est en rien la manifestation d'un individu plein et entier, d'un être capable d'autodéfinition, et encore moins d'un moi autonome et libre. Tour à tour décrite dans le texte comme une volonté de tout prendre du monde qui l'entoure, puis comme une fatalité, un problème de tout prendre, de tout garder, cette capacité de l'auteur-narratrice à tout absorber puis à tout fixer fait d'elle un sujet parasité. Organisme vivant aux dépens d'un autre, se nourrissant de ses substances, lui causant des dommages sans toutefois entraîner sa totale destruction, le parasite est à l'image de ces autres dont les traces laissées ont à jamais stigmatisé la peau de Nina. Cette dernière est peuplée, habitée, on occupe tous ses territoires. Elle est constamment visitée, envahie, assiégée, puis quittée. Je cite « Il y a sans cesse quelqu'un qui part de moi, il y a sans cesse un voyageur ». Fin de la citation. La notion de parasite permet donc non seulement de saisir le caractère tangible de l'influence des autres sur l'auteur-narratrice, mais elle permet également de rendre intelligible l'expérience que celle-ci fait de la mémoire. Si l'anthropologie qui se profile dans mes mauvaises pensées est celle d'un sujet parasité, constitué par l'influence des autres, la mémoire de ce sujet ne peut qu'être forcément marquée à son tour, façonnée, construite par son expérience humaine particulière. Deuxième partie, une expérience mémorielle fragmentaire. Mon corps a la mémoire que j'ai perdue, affirme l'auteur-narratrice. Chaque pore de ce corps mémoriel exude de souvenirs, souvenirs indélébiles puisqu'ayant laissé des traces physiques. Toutefois, selon Dominique Villard, pour qui la mémoire intime est constituée d'éléments extérieurs, je cite, « la matière autobiographique ne peut se circonscrire aux souvenirs intimes ». Fin de la citation. Ainsi, la mémoire est-elle construite de divers fragments étrangers, composantes que je nommerais ectoparasites, soit des parasites externes qui se fixent au corps, dans ce cas-ci défini comme porteurs de mémoire. Deux des trois injonctions substitutives concernant la matière autobiographique apportées par Villard dans son chapitre l'archéologie de soi dans la littérature contemporaine française, récits de filiation et fiction biographique, me serviront ici à aller plus loin dans cette idée d'une mémoire parasitée et inévitablement d'une écriture qui l'est tout autant. La première veut que, et je cite, « à l'écriture intime se combine et se surajoute la contextualisation historique ». Fin de la citation. Impossible à la lecture de mes mauvaises pensées d'exclure l'influence de l'histoire dans l'histoire de l'auteur-narratrice, à comprendre ici par « histoire avec un grand H » dans « l'histoire avec un petit H ». Katharina Arrington, dans « Writing Between Borders, Nomadism and its Implications for Contemporary French and Francophone Literature », encore plus beau avec une grippe, avance que, je traduis, « comme fille d'une mère française et d'un père algérien ayant vécu dans chacun des pays respectifs de ses parents et ailleurs, Bouraoui, dans son écriture, exprime les difficultés qu'elle a traversées à travers son inscription dans son propre territoire et sa négociation avec la multiplicité de son identité nationale et culturelle. » Fin de la citation. La contextualisation historique est si fondamentale puisque l'auteur-narratrice est porteuse d'un conflit ayant profondément marqué l'histoire de l'Algérie, celle de la France et celle de sa famille. La confusion identitaire qu'elle en hérite, ses origines étant en elles-mêmes conflictuelles, a imprimé des marques sur son corps, a laissé une empreinte algérienne sur sa peau métissée. Je cite, « c'est toujours cette histoire au fond de moi, de venir de deux familles que tout oppose, les Français et les Algériens. Il y a ces deux flux en moi que je ne pourrai jamais diviser. Je crois n'être d'aucun camp. » Fin de la citation. Le lourd passé de l'Algérie avec la France est à jamais gravé sur la peau de l'auteur-narratrice, qui devient alors étrangère dans ces deux lieux. Ni française ni algérienne, elle est un parfait mélange. Il y a une déchirure dans cette confusion identitaire, une opposition fondamentale entre le pays colonisateur et le pays colonisé, et les nombreuses références dans le texte à cette opposition entre ces deux pays prouvent le caractère fondamental de cette déchirure dans la quête de soi de Nina. Bien qu'elle ne soit qu'une héritière et qu'elle n'ait pas vécu la guerre d'Algérie, elle ne pourra jamais effacer ce passé qui a marqué sa peau, ses traits, l'histoire de sa famille et donc la sienne. Nina se décrit comme un corps témoin. Elle est le témoin à la fois d'une histoire qui est la sienne et d'une histoire dont elle est certes le produit, mais qui la dépasse, qui ne lui appartient pas, puisqu'elle se positionne comme héritière de l'histoire de ses parents et de l'histoire de l'Algérie. Comme l'affirme Anne-Martine Parent dans son article « La peau buvarde de Nina Bouraoui », et je cite, imprégnée de l'histoire de ses deux pays d'origine et de celle des membres de sa famille, la narratrice devient un sujet buvard qui a pour tâche de relayer ses histoires, d'en porter la mémoire. Fin de la citation. Cette histoire-histoire confine donc l'auteur-narratrice à une posture mémorielle double. D'une part, à une mémoire qui lui est propre, mémoire recouvrant notamment sa famille, ses relations amoureuses, sa filiation littéraire, ses deux origines. D'autre part, à une post-mémoire qui réfère à un passé qui n'est pas le sien, mémoire recouvrant cette fois l'enfance de ses parents et le passé douloureux de l'Algérie, colonisé par la France puis libéré. Toutefois, bien que ces mémoires soient distinctes, elles se fondent et finissent par se confondre pour constituer le passé de l'auteur-narratrice, son histoire-histoire. En effet, le passé de l'Algérie et l'enfance des parents de Nina interviennent dans sa propre histoire et ce, sur le même plan que celle-ci, sans distinction aucune, comme partie intégrante de son expérience, puisque selon Anne-Martine Parent, cette histoire fait partie d'elle, au même titre que sa propre histoire personnelle. Fin de la citation. Cette posture mémorielle double me mène alors à la seconde injonction substitutive de Villard, qui veut que, je cite, « le récit de soi s'indexe à l'écriture de l'autre, des autres qui, en amont, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à faire du sujet ce qu'il est devenu. » Fin de la citation. Le fait que le détour par autrui soit nécessaire dans la démarche de connaissance de soi n'est plus à prouver selon les théoriciens et critiques ayant abordé les pratiques autobiographiques contemporaines. Et si l'auteur-narratrice affirme également qu'il faut visiter les autres pour se savoir soi, elle amène toutefois cette assertion beaucoup plus loin. Les autres n'ont pas seulement contribué à faire d'elle ce qu'elle est devenue, ils l'ont construite, elle en est constituée. Nina s'inscrit dans plusieurs filiations. Il y a bien sûr la filiation première, celle de la famille. Il y a l'écriture de l'histoire familiale. Je cite ici mes mauvaises pensées. Parce que ces histoires font aussi partie de moi. Je suis le sujet buvard. J'ai la mission de restituer chaque mouvement de chaque branche de l'arbre familial. Fin de la citation. Il y a donc ce devoir de restitution, ce désir chez Nina d'écrire l'histoire de sa famille dans les moindres détails, cette histoire qui s'est inscrite sur sa peau, cette histoire bâtie sur un conflit, sur l'opposition entre la France et l'Algérie. Il y a ensuite la filiation avec la mère, avec qui elle est dans les mailles d'un filet, a une relation fusionnelle et vit une union qui l'étouffe. Je cite mes mauvaises pensées. C'est vivre toutes les deux qui ne va pas chez moi, c'est ce couple encore, moi et ma mère, moi et le corps de ma mère. C'est cette union qui me fait peur, là. C'est encore le corps qui enveloppe, étouffe. J'ai trop de chair autour de moi. Ma maison est ce mur de chair, tout l'amour de ma mère, pour moi. Fin de la citation. Dans cette relation s'immisce également un renversement des rôles quand Nina protège sa mère, ou un bouleversement des genres quand elle devient son père devant cette dernière. Cette filiation est donc également empreinte d'une certaine confusion qui trouble l'auteur-narratrice, confusion qui provoque une nouvelle scission dans son identité. Puis, avec la filiation maternelle, vient également la filiation féminine, puisque, je cite, « il y a un lien entre les femmes, il y a un fil invisible ». Fin de la citation. Les femmes entourent Nina comme une pyramide. Ainsi, l'auteur-narratrice se perçoit comme héritière de toutes les femmes. Elle s'inscrit dans cette lignée, dans cette généalogie originelle. Je cite Nina, « j'ai l'image d'une femme préhistorique qui aurait mes forces et mes peurs. Je crois à la mère des mères, je crois à ce cercle ». Fin de la citation. Toutefois, malgré cette inscription dans une filiation féminine, il y a également une filiation paternelle, doublée d'une inscription dans la lignée masculine. Et je cite, « mon père ne marque jamais la ligne entre les filles et les garçons, et je crois que je suis encore son fils. Quand il me demande où j'en suis avec un grand respect et un sentiment d'égalité, de fraternité, de complicité, que j'ai toujours vu se dégager du lien entre les hommes, et je tiens mon rôle à merveille, je crois que je suis fière d'être encore le fils de mon père. Je suis le fils de mon père, je suis surtout son miroir. Il y a une histoire des pères dont on ne se défait pas. » Fin de la citation. Encore une fois, il y a un bouleversement des genres et un déplacement des rôles dans cette filiation paternelle qui diffracte à nouveau l'appartenance de l'auteur-narratrice à un genre, à un sexe, à une identité. Pourtant, tout en possédant ce désir de devenir un homme, elle est consciente de ne pas l'être. Selon elle, elle existe trop, elle est une femme. Malgré cette connaissance de son corps, elle veut être un homme parmi les hommes dans ce pays d'hommes. Dans Garçon manqué, elle affirme que toute sa vie consistera à restituer ce mensonge, à le remettre, à l'effacer, à être une femme, à le devenir enfin. Fin de la citation. L'auteur-narratrice ne peut cependant se reconnaître dans aucun des deux genres, puisque Nina est un garçon manqué, Nina une fille ratée. Tout comme elle ne sait s'associer à aucune de ses origines. C'est chez elle une fatalité de porter une identité de fracture. Ainsi, dans chacun de ses textes, il devient évident que l'auteur-narratrice se laisse traverser. Son corps flou prend les contours de ses diverses filiations lui imposent. Il n'y a toutefois pas que des filiations d'ordre familial qui ont formé Nina, puisqu'elle s'inscrit dans d'autres lignées. Elle dit entre autres venir de ses amis algériens. Et je cite, « je suis un arbre qu'on a retiré trop tôt de sa terre. J'avais mes racines à moi. Je vous garde contre moi, comme je garde cette peau, cette empreinte algérienne. Je viens de vos corps, de vos voix, de vos visages. Je suis faite de votre amour pour moi et de mon amour pour vous. J'aurais tant voulu vous dire adieu. J'aurais tant voulu préparer mon avenir à vos côtés. Je ne sais pas ce que signifie devenir, mais je crois que j'aurais pu devenir avec vous. J'aurais pu prendre une parcelle de chacun. J'aurais pu mélanger nos rapports de force, de fragilité. » Fin de la citation. L'emploi du verbe « devenir », qui plus est en italique dans le texte, n'est pas anodin. Il met l'accent sur le fait de se constituer, de se construire par et pour les autres. L'auteur-narratrice s'imagine d'ailleurs prendre une parcelle de chacun et mélanger leurs rapports pour parvenir à devenir. Elle ne s'inscrit donc pas seulement dans cette lignée. Elle se montre également perméable, disposée à être formée par cette dernière. Cette généalogie composite dont les lignées diverses, familiales, amicales, amoureuses, littéraires, dont je n'ai abordé qu'une partie, ont toutes contribué à former ce sujet pluriel qu'est Nina. Ça permet de constater, pardon, l'influence des autres sur cette dernière et sur sa mémoire, former elle aussi des fragments étrangers déposés en elle et sur elle. Ces autres qui s'immiscent, ces autres qui contaminent, qui envahissent, ces autres qui laissent des traces, qui marquent la peau, ce sont eux qui sont la source de l'écriture dans le texte. Dernière partie et conclusion en même temps, un désir de neutralité. À force de contagion, à cause de l'invasion des autres en elle, Nina se perd. Je cite, « Avec les mauvaises pensées, j'ai si peur de ne plus savoir qui je suis. J'aimerais tant venir de moi, vous savez, mais d'un moi blanc et désertique sur qui rien n'aurait pris. » Fin de la citation. Il y a donc chez elle ce désir de neutralité, ce désir d'être libre de tout cadre. L'auteur-narratrice souhaite être, exister en elle-même et pour elle-même, vivre libre. Je cite, « Il n'y a aucune limite dans mon temps, c'est une forme de liberté, comme un baume qui restituerait tout ce que j'ai perdu. La liberté quand je refuse de penser à ma famille, à mon cercle, à son agencement. La liberté quand je sais qu'au fond de moi, je quitte l'enfance, que je peux être seule et séparée, que je peux trouver ma place dans le monde. » Fin de la citation. Mais ce désir est vain. Nina ne sait pas se séparer. Elle est constamment visitée, envahie, assiégée. Elle est un carrefour humain. Elle est traversée, peuplée. Elle est ce sujet buvard, cette peau qui prend tout, qui garde tout. Elle est cette chair fossile dont les crevasses recèlent de marques, de restes. Elle est ce corps témoin portant les traces d'un passé qui s'étire, qui s'éternise. Elle est ce corps mémoriel dont chaque pore de la peau exude de souvenirs. Elle est ce corps transparent qui a été traversé jusqu'à se rendre flou. Elle est ce corps composé des autres, ce sujet parasité dont la mémoire et l'écriture ne peuvent qu'être également visités, puis invariablement marqués à leur tour par ces autres qui laissent leurs traces. C'est en effet le propre de l'anthropologie mise de l'avant dans mes mauvaises pensées. Ce sont ces couches, ces strates qui se sont superposées, ces fragments qui se sont déposés, qui composent le corps de l'auteur-narratrice, qui constituent ce qu'elle est, qui fonde son expérience mémorielle et son écriture. En elle, je cite, « Tout ce qu'on fond, vous savez, c'est la vie monument. » Fin de la citation et fin de la communication.
Merci, Mélissa Jane. Alors, j'imagine que cette communication va susciter beaucoup de questions. En résonance avec ce qu'on a dit ce matin, en plus, et même avec la communication de mots, ça peut faire beaucoup de bien. Oui.
Je suis un peu avec les mots. Ben, tu parles beaucoup de corps marqué, de peau, de physique, puis aussi qu'elle est composée des autres. Je me demandais, est-ce qu'elle a une intériorité?
Oui, bien entendu. Je crois que c'est chez elle indissociable. Je crois que son corps est totalement, paradoxalement, incarné. En fait, tout ce qui est intérieur prend une certaine matérialité chez elle, et même la mémoire est matérialisée chez Bouraoui beaucoup. Elle devient un objet, purement et simplement. Donc oui, elle a une intériorité, cela va sans dire. Tout ce que j'ai dit, en fait, se porte à son intériorité. C'est évidemment pas des traces véritablement stigmatisées sur sa peau, sauf peut-être l'empreinte algérienne, donc elle a une peau métissée. Mais outre ça, c'est des traces laissées à l'intérieur d'elle-même, donc des traces qui ne sont pas visibles, mais auxquelles elle donne un caractère presque physique, violent aussi. Donc,
on peut dire qu'elle a une intériorité externe,
quasiment. Oui. Oui, on pourrait voir ça comme ça. Ça serait à fouiller comme formulation. Il y a sûrement une petite twist pour dire exactement la formulation qu'il faut, mais on va y réfléchir, oui.
Bonjour. Alors, malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'assister aux communications de ce matin. J'aurais une petite question sur la méthode. En fait, j'aimerais savoir quelle distinction tu fais entre l'approche psychologique et anthropologique de tes analyses.
On n'est pas très lecture psychologique, je pense.
Je pense que finalement, après, je n'ai pas vu cet auteur en lui donner envie. Mais de ce qui ressort, j'ai l'impression, au final, c'est plus l'analyse psychologique. Tu as donné quelques éléments textuels au niveau de l'Italie, du verbe en devenir. Mais sinon, c'est surtout des citations de l'écrivaine. Je n'ai pas beaucoup entendu de référence au texte. Donc, c'est pour ça que je pose la question.
Les citations de l'écrivaine sont des citations du texte.
Ah,
en fait, à comprendre que... Non, pas du tout. Il n'y a rien, en fait, de hors-texte de l'écrivaine en soi. Quand je parle d'auteur-narratrice, c'est bien sûr parce que c'est de l'autofiction. Et donc, Nina Bouraoui donne son nom au personnage de son texte, mais toutes les citations de Nina en soi sont des citations tirées de « Mes mauvaises pensées », le texte dont je parlais, ou de « Garçon manqué », qui est un de ses autres textes aussi dont j'ai parlé tantôt.
J'ai mal formulé ma question. Tu as choisi d'avoir une approche anthropologique de ces textes?
En fait, simplement de voir quelle conception de l'être humain et de l'expérience humaine est avancée dans le texte.
L'expérience de l'être humain dans le texte, et du coup, quels sont tes outils en fait, tes méthodes, parce que je m'interroge sur ton analyse.
Je vois mal ce que vous voulez savoir, en fait, ma méthode.
Est-ce que tu arrives finalement à avoir cette interprétation, donc peut-être à la périphérie, en marge, parasite, parce que après, moi, j'ai pas des connaissances anthropologiques, je suppose que tu as cette communication. J'aimerais savoir comment es-tu venu à faire le choix d'une analyse anthropologique.
Le choix d'une analyse anthropologique, en fait, est venu de M. Xantos, que vous avez dans la rangée en face de vous. On a suivi un séminaire à l'automne avec lui qui focusait sur l'anthropologie, sur donc la conception de l'expérience humaine. On travaille en... je dis « on » parce que j'implique certaines personnes de l'UQAC qui travaillent aussi dans le même champ depuis certains moments. On s'interroge beaucoup par M. Xantos à l'expérience humaine en soi. Donc, c'est de là qu'est venu le questionnement. Bouraoui, j'ai travaillé sur elle très souvent, en fait, quinzaine, vingtaine de fois, je pense, que j'ai lu ce texte-là, que j'en ai fait des communications, des articles dans différentes directions. Il y a toujours plusieurs choses qui reviennent, veut pas. Ce qui était, selon moi, nouveau dans la lecture anthropologique, c'est de voir à quel point ce sujet-là se montre constitué des autres et se montre donc pas séparé, pas libre, pas construit en lui-même. Mais ce côté hanté, ce côté parasité, justement, se lisait dans plusieurs autres analyses que j'ai faites du texte, ne serait-ce que parce que le texte, je sais pas si vous l'avez lu, est construit en un paragraphe complet, sans interruption, c'est donc craché en un seul souffle, c'est construit en superposition d'images aussi, donc c'est une espèce de jeu mémoriel, où un souvenir en rappelle un autre, tout est sur le même plan. Il n'y a pas de distinction non plus linguistique, il n'y a pas de marqueur temporel ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je parlais aussi de mémoire et de post-mémoire. Donc, le côté parasitaire, selon moi, se reflète dans cette écriture-là qui est complètement sur le même plan, qui prend des influences diverses et qui est constituée d'autrui, fondamentalement.
Je trouvais que ça avait une connotation plutôt péjorative pour un écrivain et qu'on s'éloignait justement du champ.
Je crois pas que ça s'éloigne en soi. En fait, un auteur qui choisit de faire de l'autofiction, je veux pas pige dans sa propre existence, mais j'ai beaucoup en tête que, selon moi, quand on lit une autofiction, on doit rester entre la première et la quatrième de couverture. Donc, tout ce que je dis est tiré du texte. Tout ce que je dis vient du texte et de l'entièreté de son œuvre parfois, parce que j'ai lu pas mal tout Bouraoui, je crois, ou presque. Donc non, il y avait non, rien de péjoratif.
Est-ce qu'on sent une évolution alors dans la trajectoire de son œuvre à Bouraoui? Est-ce qu'on sent une évolution entre le début de ses œuvres?
Il y a une paix qui s'installe, je trouve... notamment dans « Nos baisers sont des adieux », qui est le suivant de « Mes mauvaises pensées », qui est un texte absolument magnifique, construit en petites mini, je dirais pas chroniques, mais c'est des petits paragraphes qui parlent fondamentalement de l'influence des autres. En fait, elle commence avec « Je me suis raccordée aux hommes, aux femmes, aux objets et aux images qui ont construit la personne que je suis ». Donc, c'est des petits fragments d'un endroit, d'un objet, d'une personne qui ont eu une influence sur sa vie, mais il y a une certaine plénitude dans cet apport des autres. Elle se sent plus complète avec tout ça, je pense, moins déchirée. En fait, j'ai trouvé aussi dans l'écriture, je sais pas pour ceux qui ont lu « Nos baisers sont des adieux » aussi, mais oui, je sens une évolution dans son écriture. Toutefois, les thèmes reviennent. Donc, ce qui me fait croire qu'elle est bel et bien constituée de tout ça. Torturée. Je dirais peut-être pas jusque-là. Comment? Non, pas de là être épanoui, mais je pense qu'il y a une certaine acceptation jusqu'à un certain point, donc torturé, je ne sais pas si j'emploierais ce terme, mais est-ce que vous voyez la nuance que je veux...
Non, mais je questionne
toujours
juste le choix de l'approche,
je n'ai pas de questions. Peut-être que Nicolas pourrait intervenir justement dans l'ordre, donc on a Nicolas, madame, et ensuite Marc-André.
Ouais, juste
pour dire un peu en deux mots ce qu'on entendait par cette réflexion anthropologique, parce qu'elle est revenue à deux, trois reprises. L'idée, c'est de partir un peu de ce que Paul Ricoeur a pu proposer dans Temps et Récit. Et ce que Paul Ricoeur, lui, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut donner sens à l'expérience du temps. C'est comme ça se fait. Et la narrativité, l'organisation du discours narratif, c'est une manière de donner sens au temps. Et puis, l'idée qui était tout ça pour la réflexion que je me mène, moi, qui me suis réclamé, c'est de se dire, bon, certes, le tout récit parle du temps, mais tout récit met aussi en scène des personnages. Ce que c'est qu'un individu. Et donc, du coup, à partir de là, et c'est aussi ce que Ricoeur a fait en parlant de quantité narrative, on peut faire le lien entre l'organisation narrative, certes, et la temporalité, mais aussi entre l'organisation narrative et la conception du temps. Et c'est ça l'idée de cette anthropologie-là, c'est de partir de l'organisation narrative, de voir ce qu'est présupposé à ce moment-là, en termes de conception d'être humain ou d'anthropologie.
Donc, si je peux ajouter, en quoi la conception aussi peut influencer l'expérience à la mémoire, l'expérience du temps, l'expérience à l'espace, le rapport à tout ça, finalement, aussi. D'où le fait que j'ai découlé à la mémoire et à l'écriture.
J'avais quand même une petite question.
Nicolas, va.
Une question que tu n'as pas encore entendue. C'est une de mes questions sur tes, tes réflexions. Ça m'a frappé. Il y a une chose qu'on voit très souvent en littérature, surtout au 19e siècle, c'est le lien entre le physique et le moral en termes de portrait. Et là, d'une certaine manière seulement, tu reprends un peu ce paradigme-là du physique avec la peau et du moral avec la question de la mémoire, la question de l'identité, etc. Mais ça se reformule en des termes tout à fait différents. C'est pas du tout ce vautrin bouquin qui, bon, etc. Parce que c'est des bouquins, plus on les filles. Et est-ce que t'arriverais, c'est vraiment une question de bas papillon, est-ce que t'arriverais à voir la différence entre ce lien physique-moral qu'il pouvait y avoir conventionnellement au 19e siècle, puis qui a perduré, et le lien physique-moral que Bouraoui essaie d'instaurer?
Excellente question. Honnêtement, ça serait à fouiller, par exemple, parce que c'est vrai, tu le mentionnes, puis jamais j'ai même porté attention au... Ben, je veux dire, oui, je me suis rendu compte qu'on utilise beaucoup de termes physiques pour parler de l'intériorité et vice-versa, mais honnêtement, là, en toute franchise, il faudrait fouiller la question. Je peux pas te répondre en disant « c'est ça ». Voilà, le lien, il est là. Mais on en reparlera assurément...
Il y a une inversion. Un roman du 19e, le physique est un indice du moral.
Ouais.
Tandis que là, le physique est le support. On parlait de torturer tout à l'heure, mais porte la stigmate de ce qui est vécu intérieurement. Et donc, il y a comme une forme de renversement. Et on cherche à matérialiser ce qui est une expérience humaine dans une trace, que cette trace-là soit. Littéral, dans ce cas-ci, peut-être davantage figuré.
C'est une expérience humaine, c'est pas un trait psychologique ou moral non plus.
Aussi.
Ouais.
Un vécu et non pas un élément définitoire.
Absolument.
On avait madame qui
Moi, j'ai bien aimé la présentation par rapport au sujet parasité, contaminé et infecté. Je mets ça en rapport avec le thème de la maladie. Donc, je voudrais voir. Que vous me disiez, est-ce qu'il y a aussi un rapport, une certaine résistance par rapport à toute cette perméabilité?
Oui, oui.
À certains moments, on ne peut plus boire.
Non, c'est ça, on est plein là, jusqu'à un certain point. Mais je vais prendre votre question sous deux aspects parce que super intéressant que vous parliez de maladie. J'en ai pas parlé, mais en fait, le récit est écrit comme des confessions faites à une thérapeute et elle consulte une thérapeute pour ses mauvaises pensées qu'elle considère comme une maladie, justement. Et elle fait beaucoup de liens entre ses mauvaises pensées, entre aussi la présence des autres dans sa vie et la maladie. Ses mots sont comme une maladie aussi, elle le dit souvent. Et oui, j'en ai parlé tantôt quand j'ai dit à la fois une volonté de tout prendre et une fatalité de tout prendre. C'est le fait que d'un côté... Elle n'a pas le choix, elle se dit sujet buvard et elle prend tout sans le vouloir, mais en même temps, ça lui permet d'écrire. Donc, il y a une volonté de tout garder, de tout fixer par l'écriture, de tout rationaliser, si on veut. Il y a vraiment ces deux côtés-là, mais il y a ce trop-plein à un certain moment aussi, et c'est ce qui cause, selon moi, le débordement qui est mes mauvaises pensées. c'est complètement renverser des mots pendant 300 quelques pages sans interruption, avec une ponctuation qui est plutôt en virgule et tout ça, et tout se superpose, et c'est vraiment submergé. Elle parle de flux en elle quand elle parle de l'Algérie, des images de l'Algérie. Donc il y a vraiment, oui, il y a vraiment ça, je crois. Est-ce que je réponds à votre question?
Oui, vous répondez juste pour rebondir sur ça. Donc ça pourrait être mis en contexte avec la situation des femmes en Algérie, comme
Tout à fait.
Plastration, je ne sais pas que le terme, d'enfermement.
Mm-hmm. Vraiment, puis d'ailleurs, en Algérie, elle se représente plus comme un homme. Elle préfère être du côté des hommes en Algérie. Elle se sent plus libre comme telle, si on veut. L'affiliation est plus masculine. En fait, dans Garçon manqué, c'est plus marqué. Les hommes sont du côté de l'Algérie, les femmes du côté de la France. Donc, en France, on essaie de la cadrer comme une femme. En Algérie, elle se sent plus avec la force masculine. Parce qu'elle ne s'associe pas justement à ce statut de la femme là-bas.
On avait Marc-André.
Pardon, si je peux, j'aimerais rebondir un peu, puis donner une question et un commentaire en même temps. J'ai l'impression, en tout cas dans ce que vous avez présenté, il y a vraiment une référence implicite, en tout cas à la psychanalyse. Vous avez cité Mondalis, mais il y a en tout cas peut-être que ça va être un verbe. Mais c'est le vocabulaire de la psychanalyse.
Oui, oui, oui.
Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, bon, justement, comme vous avez parlé des notions de filiation et tout, j'ai l'impression qu'avec la corporalité, c'est aussi une façon, par exemple, au mécanisme de fonctionnement des rêves, de donner de la figurabilité ou de mettre en image, justement, de la donner du corps à des problématiques qui sont des problèmes qui sont abstraits. Comme justement, dans ce cas-ci, des problèmes de clivage identitaire. Mm-hmm. J'espère, justement, le lien entre l'anthropologie et la psychologie, la psychanalyse a aussi beaucoup travaillé, ou l'anthropologie, par le biais de la psychanalyse. Puis je me demandais si vous allez aborder un peu de ce côté-là.
La lecture psychanalytique de la chose.
Pas nécessairement une lecture psychanalytique rigide, mais d'emprunter parfois des outils à la psychanalyse.
Pas consciemment.
Je pense que ça pourrait être justement.
Pas consciemment parce que bon, l'inconscient revient, ça y est. J'ai une détestable expérience avec la psychanalyse. Je déteste la psychanalyse. J'ai lu Lacan avec un pot de Tylenol et une immense bouteille d'eau. Ça m'a pris des semaines. Je le déteste. Mais non, je ne m'associe tellement pas à ça que parfois, par désir de m'en détacher, je me rends peut-être pas compte que je m'en rapproche à certains moments. Puis quand je m'en vais vers Pontalis, c'est surtout pas à cause de son apport à la psychanalyse, quoique parfois on voit qu'il a des influences, évidemment, mais c'est surtout pour son travail de la récapitulation de soi qui m'intéresse énormément dans le déplacement des enjeux quand on tente de parler de soi, parce qu'évidemment on l'a toujours fait. Oui, il y a une prolifération des récits de soi dans le contemporain, j'en conviens. Il y a un repli sur soi aussi après la chute des grands dessins collectifs et tout. Mais l'autobiographie existait. On l'a replacé, on l'a recadré. C'est pour ça que je vais vers Pontalis, qui a théorisé tout ça. Fait que pour répondre à ta question, consciemment, je voulais pas m'en aller par là.
Non, mais j'étais juste, je pensais, hein, parce qu'il y a des travaux, je pense aux travaux de Pierre Legendre, notamment, où il a travaillé en anthropologie, mais anthropologie du droit, plus dans son cas, mais avec justement un fort biais psychanalytique. Okay. Il y a vraiment, en tout cas dans les notions de filiation ou de langage. Vous avez parlé de déplacement aussi.
Oui, donc, oui.
Parce que je pense qu'il y a des, sans nécessairement, je disais ça comme ça, mais sans nécessairement.
Non, c'est ça, il n'y avait pas de...
une étiquette.
Mais je crois qu'on avait aussi le désir de lire le texte pour ce qu'il était, puis voir la conception humaine telle qu'elle était dans le livre en soi, sans nécessairement piger dans toutes les influences, plus utiliser les pistes du texte, quels indices on nous laissait, puis de quelle façon on construisait l'expérience au sein même du texte, sans s'en détacher. Mais la question est intéressante, parce que je crois que pour travailler la conception de l'expérience humaine, tout ça va de pair. La socio, la philo, la psychanalyse, la psychologie, tout ça va intervenir jusqu'à un certain point quand on parle de l'être humain.
Non, je disais ça parce que, mais je sais pas, je sais pas si faire un plaidoyer pour la
psychanalyse. Non, 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 pas du tout, mais j'explique.
C'est parce que j'allumais aussi qu'avec la, j'ai pas lu le livre, mais avec la mise en situation, justement, là, j'ai une thérapeute, tu vois, en tout cas, ouais. Pour lui raconter, il y a quelque chose un peu. De...
Oui, en plus.
Là, je pourrais pas, je ferais pas du tout.
C'est parce que trop évident.
Je sais pas, c'est parce que trop évident, peut-être. Je sais pas.
Je laisserais peut-être, j'avais une demande pour une dernière intervention rapidement.
Oui, en fait, j'aimerais juste rebondir, en fait, sur la question de la thérapie chez Boural.
Beaucoup rebondissement. Je veux rebondir, je veux.
Non, non, mais dans un autre angle, en fait. Parce que pour avoir lu « Garçon manqué et mes mauvaises pensées », moi, je l'aurais orienté plus dans une approche de victimisation plus que de maladie.
OK.
Je trouve pas le narrateur personnage malade, parce qu'elle est consciente quand même déjà des violences vécues,
oui.
Physiques, sentimentales, oui. de la morale historique, etc. Mais surtout aussi... qu'elle va vers une recherche, en fait, vous avez parlé de plénitude, elle va vers une recherche de paix en elle par rapport à,
oui.
à la dichotomie de sa vie.
Elle tente de réconcilier ça, finalement.
Voilà, et ça m'a fait un petit quai parce que vous avez parlé, dit en fait, un peu plus tôt, qu'elle essayait par l'écriture de garder les souvenirs. Moi, j'aurais plus pensé qu'elle essayait surtout de se débarrasser des souvenirs, et que la thérapie inclut aussi par l'écriture du narrateur, personnage, par les modèles vraiment saccadés de phrases qu'elle nous donne.
Mais
une
en
manière
fait...
de se débarrasser, et non pas une manière en fait de garder et de construire l'histoire.
J'ai un bémol là-dessus parce que, honnêtement, je l'ai tellement lu ce texte-là, et elle le dit vraiment elle-même qu'elle... fixe par l'écriture, mais elle ne dit pas nécessairement que c'est quelque chose qu'elle souhaite faire de fixer par l'écriture, parce que oui, il y a ce caractère salvateur qu'on cherche à travers l'écriture, ce caractère thérapeutique de justement se débarrasser enfin, de faire sortir tout ça, mais c'est paradoxal parce que on le fixe, on en fait un objet, tu sais, on le met en texte, puis à partir de ce moment-là, c'est inaltérable. Ça demeure là. Mais les termes de fixer que j'ai utilisés, de garder, c'est vraiment des termes du texte que j'ai repris. Puis pour reprendre votre première partie de question, c'est vrai qu'elle elle se dit moins malade qu'elle est une maladie elle-même. Elle dit souvent que ses propres mots sont une maladie. Elle a des pensées violentes. Elle a peur de faire mal aux gens autour d'elle. Elle a peur de se faire mal aussi. Donc la violence, oui, est extrêmement présente dans ses textes. Vraiment. C'était comme à plusieurs volets. Est-ce qu'il y a une partie que j'ai échappée?
Non,
que...
c'est ça.
Ça va? D'accord.
Donc, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On va prendre la pause. On revient vers 3 heures.